Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans Au fil des pages, aujourd'hui nous avons le plaisir d'aborder l'un des grands de la littérature française, un géant, Balzac, avec une jeune femme qui a, pour son travail sur le jeune Balzac, c'est-à-dire les romans de jeunesse de Balzac, obtenu l'un des prix de l'Académie des sciences morales et politiques, Marie-Bénédicte Diethelm, qui a donc été couronnée pour son travail par le prix Claude Berthaud 2004. Marie-Bénédicte Diethelm, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous accueillir. Alors, ce jeune Balzac a-t-il vraiment écrit lui-même beaucoup de romans dans sa jeunesse ?
Ah oui, il en a écrit des quantités. Il en a écrit 8 qu'il a reconnus. Et puis d'autres, dont l'attribution, posent plus de difficultés.
Alors là, justement,
il a écrit
votre travail,
sans arrêt.
Voilà, il a écrit sans arrêt. Quand il écrit ce roman dont nous parlons aujourd'hui, donc, qui est un roman de jeunesse de Balzac, qui s'appelle L'Anonyme, ou Ni père ni mère, c'est donc un roman qui est publié aux éditions du Passage. Quel âge a Balzac quand il écrit ce roman ?
Il a 23 ans.
23 ans.
Il a 23 ans. En fait, il écrit depuis très longtemps. Il a toujours écrit. Il a certainement écrit même au collège. Il a accumulé des notes, des quantités de notes, des notes philosophiques, des notes historiques, des essais de pièces, des ébauches romanesques. Mais là, à partir d'un certain moment, il se met à écrire des romans qui vont être publiés. Donc des romans qui seront d'un abord plus faciles que ses textes précédents, qu'il n'arrivait pas à mener à bien. Et il y a des romans parmi ceux-ci qui vont être reconnus par lui, donc sous des pseudonymes transparents, et d'autres pour lesquels, je l'ai déjà dit, l'attribution pose plus de problèmes.
Alors, quels sont ces pseudonymes transparents, par exemple ?
Alors, il y a d'abord Lord Rune.
Ça s'écrit comment ?
R'H2ONE, c'est-à-dire Honoré.
Honoré en anagramme, alors.
Honoré en anagramme. Et puis, il y a Horace de Saint-Aubin, qui est un pseudonyme transparent pour les Balzaciens au moins, et dont il s'est servi ensuite dans différents textes. Ces textes ont été tout à fait reconnus par Balzac, à tel point qu'il a accepté qu'ils soient réédités en 1836. Donc, il était déjà tout à fait connu pour les romans qui allaient constituer plus tard ce qu'il a appelé la comédie humaine. Et cette réédition permet d'être tout à fait sûr qu'il n'a jamais véritablement renié ses œuvres de jeunesse.
Alors, est-ce le cas pour ce roman dont vous avez assuré une très intéressante introduction, L'Anonyme ou Ni père ni mère, est-ce que c'est sûr que c'est 100% Balzac ?
Ah non, absolument pas, c'est pas du tout 100% Balzac. C'est à 90% Balzac, il est bien indiqué l'auteur Honoré de Balzac en collaboration avec Auguste Poitevin de l'Aigreville.
Alors c'est qui ce Auguste Poitevin de l'Aigreville ?
C'est un personnage très intéressant, relativement attachant, c'est un fabricant littéraire. Il s'est essayé à tout. Et il a d'abord fabriqué, parce que ça s'appelle vraiment fabriquer des romans. Et là, il s'est entendu à boucher avec le jeune Honoré. Et puis, il a été journaliste. Et puis, il a écrit des pièces. Enfin, il a mené une carrière de polygraphe très active jusqu'à la fin de son existence. Il était assez doué, en tout cas, pour commercialiser ses produits.
Donc
C'est déjà un talent. Balzac a un petit peu travaillé avec lui jusqu'au moment où il en a eu assez. Et il me semble que c'est au moment de ce roman que la collaboration prend fin parce que ça devient insupportable pour quelqu'un du génie de Balzac.
Bien sûr. Alors Marie-Bénédicte Diethelm, racontez-nous en quelques mots le thème de l'anonyme ni père ni mère, dont on pense bien qu'avec ce titre, il va s'agir d'un enfant ou d'un jeune qui n'a plus ses parents, je suppose.
Enfin, oui,
le sais parce que j'ai lu, mais vous l'entendre dire.
Il n'a effectivement plus ses parents. Ouais, c'est un roman écrit très vite qui met en scène un orphelin. On ne sait pas d'où il sort. Lui-même ne sait absolument pas quelle est sa filiation. Et il va courir après son nom, la jeune fille qu'il aime, tout au long du roman, pour, à la fin, finalement se détourner du nom qu'il pourrait porter et d'accepter de rester définitivement anonyme, ce qui est assez curieux et ce qui montre que, à mon avis, que Balzac n'a pas voulu céder à la fin du roman à tout ce qu'on exigeait d'un romancier à l'époque. Alors, le romancier en 1820, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on fabrique énormément de romans, des romans qu'on appelle pour cabinet de lecture, qui sont en général de facture assez inférieure, mais on en fabrique énormément parce que tout le monde lit des romans, à la limite plus que maintenant. En 1820, on a décompté qu'en 1822, qui est une année exceptionnelle, mais pas tant que ça, il y avait eu 288 romans nouveaux qui avaient paru pour une population, disons, de 10 millions de, non pas de lecteurs, mais de 10 millions de personnes sachant lire et écrire.
Ah oui,
donc
c'est
vraiment considérable.
Oui, c'est une proportion énorme.
Donc on demande une production absolument invraisemblable. Et les fabricants de romans, toujours eux, les pontes de la littérature commerciale, essaient de suivre. Donc on fabrique des romans de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Généralement, ils sont assez mauvais. Et je pense que ce que Balzac fabrique à l'époque est très supérieur à ce qu'on peut lire des romans qui nous sont restés et qui ne sont pas passés au pilon.
Bien c'est que ce soit un roman de jeunesse qui ait donc encore des imperfections. De...
Oui, il a tout à fait
bien
des
sûr,
imperfections.
Bien sûr, mais c'est quand même supérieur à tout
c'est
ce
très
qui
supérieur d'abord parce que c'est vraiment l'œuvre d'un jeune homme très cultivé qui s'intéresse infiniment à la littérature, à l'histoire, à la philosophie. Ce qui n'est pas le cas des autres romans, j'en ai lu un certain nombre.
Quel courage !
Ça ne le ressemble pas. Oh non, c'est très amusant. Non, au contraire, c'est très gai. Et ça permet de voir que Balzac ne cède pas aux sirènes de la littérature commerciale. Il n'y cède pas comme on l'a trop dit.
Alors, en quoi ce thème justement de l'orphelin est-il particulièrement balzacien ? Est-ce un thème qu'on retrouve dans d'autres œuvres majeures de Balzac ?
Oui, on le retrouve en permanence. Par exemple, dans L'Ys dans la vallée, Félix de Vandenesse, d'abord a une mère qui est absolument atroce avec lui, un père qui ne s'occupe pas de lui, des frères et des sœurs qu'il méprise ou qu'il persécute. Et c'est certainement dans le Lys dans la vallée qu'on a le plus d'écho autobiographique de l'enfance du jeune Balzac, dont il a très peu parlé par ailleurs, mais simplement par à-coup et par accès, et on sent combien il était malheureux petit. Il a vraiment été... On dit toujours qu'à l'époque, les femmes abandonnaient naturellement leurs enfants à des nourrices et qu'elles ne s'en occupaient pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les enfants ne l'acceptaient pas plus que maintenant. Et Balzac, toute sa vie, mais jusqu'à sa mort, est revenu sur le fait que, dès sa naissance, on l'avait mis chez une nourrice, que sa mère n'est pratiquement jamais venue chez la dite nourrice, tout à fait comme Madame Bovary, qui ne va jamais voir la petite Berthe, ou à peu près pas, ou en compagnie de son amant. Donc il a été vraiment malheureux de ça. Ensuite, il est revenu pour peu de temps, mais il dit qu'il ne voyait sa mère que le dimanche et que la gouvernante était odieuse. Et puis, on l'a expédié, il avait 8 ans, au collège de Vendôme. Et à Vendôme, il est resté enfermé, c'est le cas de le dire, il n'est pas sorti une seule fois, pas de vacances, jusqu'au moment où il a failli, juste avant ses 14 ans. Donc ça fait quand même une assez longue période. Et il dit que sa mère, enfin je ne sais pas si c'est vrai, on ne le sait pas, personne ne le sait, mais il dit que sa mère ne lui a rendu visite que 2 fois. Donc que ce soit vrai ou pas, c'est ainsi qu'il l'a ressenti. Et c'est vraiment une souffrance dont il a parlé jusqu'à la fin de sa vie. C'est très très frappant. Ça sort dans des à-coups de douleur et de chagrin rentré qui sont très impressionnants et jusqu'à la fin dans les lettres à Madame Oscar.
D'où l'intérêt de prendre connaissance de votre travail, Marie-Bénédicte Diethelme, concernant donc L'Anonyme, un roman de jeunesse de Balzac, paru, je le rappelle, je crois, en 1823, on sait exactement la date, je suppose.
Oui, on sait la date, c'est 1823, mais il a certainement été écrit en 1822.
Voilà, c'est ça. Alors, votre travail, donc, à vous-même, a consisté à opérer des rapprochements, à établir les sources littéraires, à percevoir des éléments d'identification. Est-ce que on peut dire que l'intérêt de cet ouvrage, c'est aussi de nous donner de nombreuses informations sur les sources de Balzac, sur ce qu'il lisait, ce qu'il faisait, ce qu'il sortait à l'époque.
Je pense qu'il y a deux grands intérêts, effectivement. Ce que vous venez de dire, donc ça nous apprend beaucoup sur sa formation intellectuelle, et quand il s'agit de Balzac, rien n'est indifférent. Et puis je pense que ça apprend beaucoup sur la littérature en 1820, qui est curieusement quelque chose qui n'a pratiquement jamais été étudié. Même le meilleur ouvrage sur la littérature de cette époque, c'est une série parue chez Artaud. Alors Béatrice Didier s'est occupée du XVIIIe siècle, alors on pousse jusqu'à 1820, et Max Milner et Claude Pichois recommencent à partir de 1820. Et 1820...
C'est un petit trou.
Et c'est pas vraiment un petit trou, parce qu'il le traite vraiment... Très bien, mais c'est une jonction. Alors qu'en réalité, c'est une littérature très particulière, en particulier, je l'ai dit, pour des raisons commerciales. Et elle n'a jamais été véritablement étudiée. Mais il y a un ouvrage qui se prépare et qui devrait sortir bientôt à ce sujet.
Voilà, nous voilà dans la confidence. Dans votre introduction, Marie-Bénédicte Diethelme, vous développez un long moment l'influence de Walter Scott sur Balzac. Est-ce qu'on peut dire que Balzac, dans ce roman de jeunesse, a essayé d'imiter Walter Scott ?
Je ne suis pas sûre. Enfin, il l'a imité d'une manière assez primaire. Il l'a imité d'une manière... il a repris des noms, des situations, des personnages, des éléments qui l'amusaient, qui l'intéressaient ou qui le bouleversaient. Il ne l'a pas imité comme il en parle plus tard dans Illusion perdue, où il fait parler ses personnages à propos de la manière de Walter Scott. C'est tout à fait différent dans L'Anonyme, où son imitation est beaucoup plus jeune. Mais Walter Scott, c'est invraisemblable. Il en parle en permanence. Et d'ailleurs, non seulement il le cite, mais il y a un des romans de Walter Scott qui est un des moteurs de l'intrigue. Il se réfère à ce roman, qui est très bon d'ailleurs, qui s'appelle Guy Mannering. Et L'Anonyme est comparé en permanence au héros de Guy Mannering. Mais il y a beaucoup d'autres romans dont il ne parle pas et auxquels il fait des allusions extrêmement précises.
Et précieuses donc pour les spécialistes dont vous faites partie maintenant de la littérature du 19e siècle. Encore un petit mot sur la manière dont vous avez travaillé auprès en travaillant avec le fonds Lovenjoul de la bibliothèque de l'Institut, puisque nous sommes ici au sein de l'Institut. Dites-nous, quelle est la richesse de ce fonds?
Le vicomte de Lovenjoul a légué à l'Institut un fonds absolument invraisemblable. Je ne parlerai que de Balzac, mais il a aussi beaucoup rassemblé de documents qui concernent Théophile Gautier et Georges Sand. Mais en ce qui concerne Balzac, pratiquement tous les manuscrits des romans de Balzac sont à l'Institut grâce au vicomte de Lovenjoul. Non seulement ses romans, mais un très grand nombre d'ébauches, de notes, de pièces sont ici. J'imagine qu'il y a le manuscrit de Jenny Grandet qui est à Genève. Il y a le manuscrit de la femme supérieure qui est à la Bibliothèque nationale. Mais sinon, pratiquement
les
tout
manuscrits
le reste est ici.
Sont ici.
Oui, c'est vraiment la bibliothèque balzacienne.
Donc vous avez vécu une grande partie de votre vie ici, si
absolument.
Je comprends bien, pour faire
ça,
votre thèse.
Oui.
Donc je résume le titre de votre travail, Marie-Bénédicte Diethelme, L'Anonyme, donc roman de jeunesse d'Honoré de Balzac, qui porte comme sous-titre Ni père ni mère, et qui est publié aux éditions du Passage, qui sont diffusées, je crois, par Le Seuil. Merci beaucoup, et j'espère que nous aurons une autre opportunité de parler de la grande littérature du 19e. Ce serait avec joie. Merci.
Oh, merci.